Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger 6 écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du 21e siècle. Pourquoi cet engouement soudain, alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore ? Mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faut, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Abdourahmane Waweri, pourquoi Djibouti a été la dernière colonie française en Afrique à obtenir et à gagner son indépendance? C'était en 1977, au terme d'un référendum d'ailleurs.
Il y a la version, on va dire, optimiste.
Oui.
On va dire que les Djiboutiens, qui s'appelaient à l'époque, ils ne s'appelaient même pas Djiboutiens, puisqu'on s'appelait les territoires français des Afars et des Issa.
Oui.
Voulait continuer l'aventure au moins pendant 17 ans avec la France. Ça, c'est ouais. Les scénarios optimistes.
Ouais.
Les scénarios pessimistes diraient qu'après l'affaire comorienne, par exemple,
ouais.
Parce que Comores a été...
Les années 74-75.
Deux ans avant. Hein,
ouais.
Les autorités coloniales de l'époque se sont arrangées pour n'est pas vraiment publié les vrais chiffres. Donc, on aurait un peu triché. Si on regarde les deux comptes de vote, on voit que les votes dans la brousse, comme on dit,
oui.
sont très bizarrement trop territoire français.
Oui.
Alors qu'en ville, il y a plus d'indépendants.
Les citadins étaient plus pour l'indépendance que les...
Donc, on peut imaginer que l'influence des gouverneurs de l'époque.
D'accord.
En tout état de cause, Djibouti est resté 17 ans dans la colonisation.
Ouais.
Et c'est simplement devenu indépendante en 77, alors qu'il y avait un courant indépendantiste depuis très longtemps.
17 ans, mais Djibouti était français depuis pas mal de temps. Mais
1860,
il y a eu. Oui, au 19e siècle. Mais il y a eu deux tentatives de référendum, enfin deux référendums d'ailleurs, où les Djiboutiens ont dit non, en 1958. Et en 1967,
oui.
C'était la côte des Somalis qui est devenue le territoire des Afars et des Issa.
Territoire français.
Français.
Parce que je suis né français.
Bon, à l'époque, il y avait 200 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a...
Un million à peu près.
Un million à peu près. Alors, c'est un territoire qui est tout à fait étonnant parce que c'est dans la corne de l'Afrique et qui est particulier à plus d'un titre. La première, c'est que c'est vraiment un petit état charnière entre le monde arabe... Et le monde africain.
Tout à fait. C'est même une cité-État quasiment, hein, parce que c'est vrai qu'il y a nous on appelle ça des cercles, on appelait ça des cercles, maintenant des régions.
Ouais.
Il y a quatre régions, quatre grandes villes, on va dire,
ouais.
Mais c'est quasiment un État, une cité-État.
Qui s'appelle Djibouti.
Qui s'appelle République de Djibouti.
Et vous, vous sentez plus proche de quelle culture ? La culture arabe ou la culture africaine ?
Non, alors Djibouti, la population, on va appeler quatre groupes, puisqu'il y a quatre langues nationales.
Hein. Ouais.
Par exemple, il y a quatre langues nationales. Le français est la langue nationale à Djibouti. Il y a l'arabe aussi qui est langue nationale, parce que depuis le 19e siècle, habite une communauté d'origine yéménite qui est djiboutienne aujourd'hui.
Parce que le Yémen est juste en face.
Juste en face. 14 000 marins. Hein.
1000 marins, oui.
Et d'autre part, la population locale africaine, elle est elle-même en deux groupes. Elle est groupe Somali qui fait à peu près 60%. Les chiffres sont très compliqués.
Comme la Somalie. Qui est juste
groupes,
à côté.
C'est ça. Et le groupe Afar,
ouais.
Qui est quasiment très proche du groupe Somali, sauf qu'on ne partage pas la même langue. On partage un certain nombre de traits, comme le nomadisme, l'islam, ouais. L'habitat désertique, etc. Mais c'est quand même deux groupes qui sont différents, puisqu'ils ne partagent plus la même langue.
Alors, vous êtes à un point tout à fait stratégique, de telle sorte qu'aujourd'hui, enfin, c'était déjà le cas à votre indépendance quand la France avait une base militaire, c'est la plus grande base militaire française en Afrique, mais à cette base militaire française sont venus s'ajouter d'autres bases militaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une base militaire américaine, il y a une base militaire japonaise, il y a une base militaire chinoise, il y a une base militaire allemande, mais on se demande, tout est grignoté par les bases militaires. C'est incroyable, c'est exceptionnel ça au monde.
C'est un cas unique. Hein.
Ah oui.
Il y a quelqu'un avait écrit la diplomatie des petites nations, voyez-vous. Donc en fait, Djibouti, et je déplore, hein, c'est spécialisé dans vous voyez, il y a des monocultures dans certains pays. Hein. On fait par exemple Côte d'Ivoire devrait être une monoculture des cacao,
etc. Ouais.
Et donc par dévers, nous, on va dire, Djibouti est devenu aussi une monoculture des bases militaires. Donc à la base française qu'on connaît, qui est historique, qui est là depuis le 19e siècle, l'État djibouti actuel a aussi profité de certaines crises comme la guerre contre l'axe du mal, dirait Bush, n'est-ce pas?
Oui.
Et à l'époque, même la France commençait à dire on baisse la base militaire et on se retire. Donc en fait, la guerre du Golfe a déjà remis le métier sur les fils, si j'ose dire.
Oui.
Et donc la base militaire américaine est devenue très importante.
Oui.
Et donc maintenant, on a la nouvelle, comme on appelle la route de la soie, donc
la base chinoise.
La Chine qui exprime une volonté hégémonique mondiale. Et donc la Chine a aussi mis les paquets, a fait une grosse base. Donc on a au moins trois grandes bases à Djibouti, la française historique, l'américaine, la chinoise. Sur ce viennent s'ajouter, pour des histoires de piraterie, dirait-on, une base italienne et japonaise.
Et japonaise.
Et là, enfin, les pays du Golfe étant pas loin, donc Dubaï, etc., tout le monde veut avoir son morceau
de... Dans ces conditions-là, est-ce que Djibouti peut vraiment prétendre être indépendant?
C'est une question qui est très difficile à répondre. Les autorités sont très dépendantes de la manne financière qui vient des bases, ça c'est très sûr.
Ouais.
Les Djiboutiens que j'étais, qui étaient nés à l'époque de la colonie française, connaissaient à l'époque cette culture. Donc,
les années 60, hein.
Les années 70, ouais. Je suis né dans les années 60, mais j'étais adolescent dans les années 70. Nous avions cette culture de voir des militaires, des jeunes appelés du contingent
à l'époque, ouais.
Avec lesquels on fraternisait, parce qu'on avait des différences, mais en même temps, donc aujourd'hui, les Djiboutiens, les enfants, moi je ne vis pas là-bas, mais ce qui serait mes enfants, ne connaissent pas les militaires américains, qui sont les GIs qui sont fermés chez eux, les Chinois sont fermés chez eux.
Chacun chez soi.
Vraiment, voilà. Et ils ne viennent plus. Bon, après, il y a des histoires de sécurité, mais il n'y a plus la culture de que je connaissais moi.
Donc, mélange.
Du mélange de cette base militaire française qui faisait partie du décor, elle n'est plus le cas aujourd'hui.
Alors, autre particularité, mais pas tant que ça si on compare avec d'autres pays africains, c'est que depuis 1977, date de l'indépendance, vous n'avez connu que deux présidents.
Ah oui, mais ça c'est...
Le président Aptidon,
oui.
Et le président
Guélé
aujourd'hui, qui n'est autre que le neveu du précédent.
Absolument.
Donc c'est une histoire clanique, familiale de Djibouti.
Ben, je vous apprends rien.
Non, mais tout le monde ne le sait pas.
Non, tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne sait pas, par exemple, combien la...
Ça, c'est le président Guélé.
Ismaël Omar Guélé, oui. Qui est président depuis... qui était déjà directeur des cabinets de son oncle.
Ouais.
Donc, qui est aux affaires depuis 1996.
Ouais.
Vous voyez, ça fait un moment. Et d'ailleurs, la question de la suite se pose, comme beaucoup de cas.
Ouais.
Et nous avons, bien sûr, pas connu d'élections libres. Et nous n'avons pas connu encore des transitions en douce. La question de la transition se pose dans beaucoup de pays en Afrique. Et comment concilier la démocratie, les attentes du peuple et la stabilité du gouvernement, de l'État lui-même, de l'État-nation, ce sont des choses sur lesquelles nous ne sommes pas encore au point à Djibouti, bien sûr, et dans d'autres pays africains également.
Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est assez compliquée sur le plan mondial, avec une guerre en Europe de l'Est, entre l'invasion de la Russie en Ukraine. Et il y a une opposition qui se manifeste de plus en plus entre l'Occident et ce qu'on appelle, selon une formule qui est nouvelle, qui s'appelle le Sud global, c'est-à-dire les pays qui refusent finalement la domination occidentale. Et on a l'impression que l'Afrique est un peu l'otage de cette rivalité entre le Sud global mené par la Chine, par la Russie d'ailleurs aussi, et puis l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe.
Non, ce que moi,
est-ce que vous le regrettez, ça?
Je sais qu'il y a... D'abord, d'un point de vue intellectuel, je suis contre les oppositions. Moi, je suis plutôt quelqu'un du lien,
ouais,
de la relation,
du comme passage.
Du passage et de la relation, comme dirait Edouard Glissant, de la créolisation finalement. Et mais je reconnais qu'il y a évidemment des liens, enfin des oppositions aussi binaires parfois très fortes.
D'accord.
Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global avec et contre une espèce de d'Occident fantasmé aussi qui est unifié, ouais, à dessein,
ouais,
n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Vous vous rappelez la conférence des Bandung? Il y avait ça déjà aussi, il y avait la tricontinentale aussi.
Donc c'est une conférence qui a eu lieu en Indonésie en 1954,
56 ou 56,
ouais, ouais. Et qui
il y avait déjà...
réunit les non-alignés sous la tutelle de Nehru notamment et de quelques autres.
En tout cas déjà on les présentait aussi comme une espèce de Sud qui serait aligné, qui serait ni aligné à Moscou ni aligné à Washington et qui aurait sa voix. Donc ça existait d'une certaine manière. Aujourd'hui avec Wagner on voit aussi que la Russie essaye de prendre des points
pieds en Afrique,
d'ailleurs en République centrafricaine, au Mali, etc. Donc ça fait partie de la géopolitique. C'est jamais,
oui,
mouvement.
Oui.
Les blocs,
oui,
ne sont jamais mouvants. Moi, c'est dont je retiens, c'est pas tant à la limite l'opposition de cette manière, mais plutôt aussi qu'il y ait une voix. J'entendais par exemple le président kényan Ruto,
oui,
qui parlait d'une... Il appelle ça la dédollarisation, c'est-à-dire une espèce de pourquoi on utiliserait entre Djibouti et Nairobi, qui est juste à côté.
Le dollar.
Le dollar. On pourrait, pour certains échanges,
ouais,
alors, puisqu'on a des structures régionales qui existent, on pourrait. Voilà, vous voyez, c'est ces débats-là. Donc que les États africains cherchent une forme de sortie, d'autonomie, me paraît être une idée intéressante, sans qu'elle soit toujours à retomber sur voyez, la domination d'un autre.
Alors,
donc c'est pas la Chine qui m'intéresse, c'est
sûr,
pas une Afrique qui serait au service de la Chine ni au
bien
service
sûr
de la Russie, ça serait une Afrique qui s'inventerait par à la fois à la base,
hein, qui gagnerait son indépendance, en fait,
à la base par des processus régionaux.
Vous avez écrit un livre justement qui s'appelle, qui a un très beau titre je trouve, Rift, Route, Rail. Une des thèses que vous défendez, c'est une de vos thèses centrales, c'est que l'Afrique a été dépossédée finalement d'elle-même, non?
Quand on parle de l'Afrique, on parle de plusieurs choses, évidemment. Mais,
oui,
mais si, disons, le discours qu'on a sur l'Afrique n'est pas un discours qui est africain d'une certaine,
oui,
manière. Hein.
Oui.
Pour des raisons historiques, par exemple, une grande partie de tous les discours qui sont d'unification,
oui,
vient de la Caraïbe, puisque c'est eux qui rêvaient. Pour prendre en culture populaire, le reggae, par exemple.
Oui.
Le reggae a imaginé...
Jamaïque.
Voilà, qui vient de la Jamaïque, a imaginé avec à la tête Haïlé Selassie à l'époque.
Éthiopie.
Voilà,
ouais,
cette idée d'une Afrique réunie, unifiée. C'est un discours que l'église, ce qu'on appelait les églises éthiopiennes, caribéennes, ont porté, vous voyez.
Ouais.
Donc c'est le nouveau monde qui avait besoin d'une Afrique unie. Donc ça, ce sont des discours qu'on tient sur l'Afrique qui n'est pas forcément... d'essence africaine. De même,
ouais,
tous les discours, par exemple à Djibouti, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la bibliothèque coloniale. Quand je voulais devenir écrivain,
ouais,
et que j'ai parlé de Djibouti, le seul lieu où j'ai trouvé le nom de Djibouti, c'est chez Manfred, chez Kessel, chez...
Vous écrivez en français.
C'est ça. C'est ce, ouais, qu'on appelle la littérature coloniale.
Coloniale, oui.
Mais parce que c'est là où Manfred a écrit sur Djibouti,
oui,
avant que j'arrive à écrire sur Djibouti. Donc vous voyez que là, je trouve Djibouti dans la bibliothèque... qui serait la moins, n'est-ce pas, indiquée au départ.
Oui.
Donc c'est ces contradictions-là qui m'intéressent. Et le discours conscient sur l'Afrique dirait, les philosophes, oui, Mundibé, il appelle ça la bibliothèque coloniale. Ce sont des discours qui ont été fabriqués par l'anthropologie, par l'histoire coloniale, par la médecine,
oui,
coloniale, etc., par les libérations américaines au sens caribéen, les églises caribéennes ont inventé une forme d'Afrique. Donc en fait, ces discours-là ne disent pas grand-chose ou disent si peu de choses sur les Afriques réelles.
Et justement, les Afriques, c'est intéressant que vous utilisiez ce pluriel, parce que vous avez écrit avec Alain Mabankou un dictionnaire enjoué des cultures africaines. Qu'est-ce que vous vouliez montrer par là? Vous vouliez réhabiliter des cultures qui étaient perdues? On vous voit là, tous les deux.
Nous sommes à la fois des artistes et des enseignants. Vous voyez, on voulait faire un dictionnaire qui soit d'abord sur le modèle de d'autres dictionnaires que vous connaissez chez Plan, le dictionnaire du
dictionnaire
vin,
amoureux de...
du vin, etc. Donc avec Alain, on a imaginé une manière d'ouvrir, c'est en fait comme si on ouvrait notre mal, et mal à l'histoire,
ouais,
hein,
ouais, ouais, bien
et
sûr,
on sortait des articles en disant, Téné, par exemple, si je vous parle de Rimbaud, est un Africain pour,
oui,
moi, Arthur Rimbaud. Hein,
qui est passé à Djibouti aussi.
Évidemment, qui voulait même mourir à Djibouti, donc... Il n'y a pas plus africain pour moi, plus attachant qu'Arthur Rimbaud. Et donc, c'est une manière à la fois de vulgariser la bibliothèque commune,
ouais,
entre Français et Africains, et aussi de faire œuvre d'éducation.
Et alors, ce qui est intéressant,
et populariser aussi.
Vous avez parlé de Kessel, de Monfred, qui sont passés à Djibouti,
bien sûr,
des grands voyageurs. Est-ce que l'histoire qu'ils ont racontée, les histoires qu'ils ont racontées, vous les réappropriez ou vous estimez qu'il faut revisiter tout ça? Et est-ce que vous participez, par exemple, à ce mouvement aujourd'hui qui est très important aux États-Unis? Vous devez le croiser là où vous enseignez à Washington, c'est-à-dire le wokisme, où on remet en question vérités historiques.
Non, parce que le wokisme est déboulonner les statuts, c'est un débat de type, on va dire, politico-social qui peut parfois se justifier. Ce que nous voulons faire, c'est révisiter les bibliothèques. Ce qui m'intéresse, Kessel, c'est qu'il ait pu écrire des choses sur les miens. Et donc, les livres sont là, ils sont à moi. Pourquoi je vais même les wokiser? Je vais les lire et m'approprier. Mon frère, c'est pareil. Pour Loti, c'est pareil. Donc, moi, j'ai trafic avec cette littérature-là. Ce n'est pas des gens avec qui je suis en opposition. Ça serait même des grands oncles qui ne sont pas là, que j'ai chéri, parfois que j'engueule. Mais ils font partie de mon imaginaire à moi et de mon histoire à moi.
Vous avez lu le roman d'Aspahi de Loti? J'imagine que le vocabulaire a dû vous gêner, non?
C'est d'époque, mais c'est...
Voilà, c'est ça. Vous comprenez ça?
Non, mais évidemment qu'ils disent noir ou nègre, c'est pas écrit d'aujourd'hui.
Ouais.
Il est même pas là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'en fais. Je vais pas les faire disparaître.
Ouais.
Moi, je vais les remettre en circulation et l'utiliser à ma manière en enlevant 2-3 mots qui m'intéressent pas. C'est ça, l'histoire. Moi, qui suis un jeune... jeune, je suis plus jeune d'ailleurs, mais quand j'étais écrivain, on me disait jeune écrivain. Pourquoi je vais revendiquer une partie de l'histoire et ni une autre, tu vois?
Ouais.
Donc je ne suis pas dans le déboulonnage, je suis dans
pas
la relation.
Tout. Vous êtes dans la relation. Vous êtes très attaché à la francophonie aussi d'ailleurs.
Moi en fait je voudrais une francophonie de tous les jours, pas la francophonie d'exception où on se retrouve la troisième semaine du mois de mars pour fêter la francophonie. Mmh. La francophonie elle appartient à tous les usagers de la langue française et on voudrait la fêter, la célébrer tous les jours.
Mais certains disent là-bas que la francophonie c'est un instrument de néocolonialisme.
Ben, et qu'elle vient dans les bagages du colonialisme, c'est évident.
Oui.
Mais aujourd'hui, personne ne demande d'écrire d'une telle manière ou telle manière. C'est-à-dire, quand vous avez des écrivains qui sont à Abidjan, qui la créolisent, par exemple, à Abidjan, il y a les Nochi, il y a un argot Nochi. Si vous écoutez la chanson ivoirienne, les coupes décalées, c'est du français, mais c'est du français qui a déjà évolué.
Ouais.
Personne n'est allé légiférer là-dessus. Donc, ça appartient aux Ivoiriens. Ouais. Donc, je ne vois même pas le problème. Qu'elle était historiquement coloniale, que la France puisse utiliser la langue française comme outil diplomatique, c'est entendu, mais que la langue française est devenue africaine depuis des siècles aussi, enfin depuis au moins des décennies, pas des siècles, mais depuis au moins un demi-siècle, c'est entendu aussi.
Ouais.
Donc les choses ne sont pas contradictoires, elles sont complexes.
Vous avez écrit au président Macron, je crois, pour lui dire, mais quel projet de la francophonie vous voulez faire? Je n'ai pas l'impression que vous sachiez précisément ce que vous voulez. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a gêné?
J'avais écrit, alors là, il faut replacer le débat, c'était à l'époque, avant qu'il fasse les discours à l'Académie française. J'avais fait un discours sur la francophonie et la langue partagée. Où je sais plus.
Ouais.
Donc j'avais regardé sur le site de l'Élysée et j'avais trouvé deux occurrences que j'avais commentées.
Ouais.
Donc ce que je lui reprochais, c'était une francophonie qui était un peu GAFAM, un peu électronique, etc.
Ouais.
Et moi, j'ai dit, j'étais attaché à l'ancienne...
La francophonie de la Startup Nation. Quoi.
C'est ça. Et vous vous rappelez qu'il n'y avait plus, dans les premiers gouvernements de M. Macron, il n'y avait plus un secrétariat d'État ou un ministre délégué à la francophonie, avec un vrai budget, etc. Donc j'ai déploré à la fois la disparition de la francophonie comme secrétariat d'État, et moi qui suis attaché, alors que nos instituts français sont dans un état souvent lamentable.
Donc, très abîmé.
Je voulais renforcer la francophonie en France, puisque je suis aussi français, d'une part, et d'autre part, que la francophonie soit pas l'exception, mais la règle de tous les jours. Par exemple, dans nos ambassades, aux instances européennes, on utilise aussi du français. Donc que Paris ne soit pas les mauvais élèves et dise aux francophones, par exemple, une fois l'an, soyons francophones.
La langue française, pour vous, c'est une langue d'émancipation, c'est une langue de libération?
Les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir les gouvernements français peuvent utiliser la langue comme outil diplomatique, c'est entendu. Ouais. Mais la langue française a été utilisée et vécue et a été accaparée, j'allais dire, par exemple, par les premiers indépendantistes des pays colonisés. Voyez donc.
Ouais.
Quand quelqu'un a été colonisé, vous lui avez donné un bagage.
Oui.
Dans son ADN, vous avez mis quelque chose. Lui ou elle peut utiliser ça. Par exemple, les indépendantistes africains, algériens, voire vietnamiens avaient utilisé la langue française comme outil d'émancipation. Mmh. Et dans ce cas-là, il s'est raccordé à l'histoire, je ne sais pas, de la Révolution française ou de la Commune ou de ce qu'on veut, voyez, ou du Front populaire. Donc on peut très bien l'utiliser. Et moi, je suis fils de cette manière-là, par exemple, d'un Hugo.
Oui.
On a parlé de Rimbaud, d'un Rimbaud proche de Communard, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est l'héritage qui me plaît. Il peut y avoir des héritages ou une part de l'héritage qui me plaise moins, mais je fais
silence. Vous l'assumez.
J'ai fait ou silence ou genre. Vous voyez, quand vous êtes dans une famille, vous avez des oncles vertueux et des oncles moins vertueux.
Ouais.
Donc l'oncle Albert qui est moins vertueux, on les cache.
Vous
et l'oncle
tout
plus
le monde.
Vertueux, on s'attache à celui-là, vous voyez.
D'accord.
Nous-mêmes, on fait ça dans notre famille.
Alors justement, sur le continent africain, quel est l'homme ou la femme politique qui, pour vous, symbolise justement l'Afrique?
Il y en a eu des périodes. Je serais d'accord avec Souleymane Bachir, par exemple, pour parfois rédimer l'image de Senghor. Par exemple, on a très facilement un peu cassé Senghor, alors que Senghor...
Vous défendez Senghor, vous.
En tout cas, pour son œuvre culturelle et pour avoir installé l'État sénégalais, oui. On n'est pas tous d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais le fait d'avoir installé l'État, de lui avoir donné une assise, est tout à fait honorable.
Son action pour la francophonie aussi.
Moi, j'étais étudiant en Normandie, je l'ai rencontré, donc c'était un homme avec qui on discutait. Je lui avais écrit une très belle lettre, ceci ou ça. Et donc, c'est un homme de culture et, oui, sur sa francophonie aussi, ça ne me dérange pas. On a trop facilement décrié, parce que c'était facile cette époque aussi, vous voyez. Normalement, les générations, elles se forment
en opposition.
À chercher des noises aux anciens. Donc, elle a formé des générations d'Africains, d'artistes africains se sont formés aussi à casser du sucre sur son corps. Très bien. À l'opposé, ça me plairait de citer Sankara, qui est n'avait
Thomas Sankara.
Thomas Sankara, qui n'était aux affaires que pendant 4 ans et qui vient du
président du Burkina Faso.
Burkina Faso, qui a créé les Burkina, l'État d'avant s'appelait la Haute-Volta.
La Haute-Volta. Le pays des hommes intègres.
Des hommes intègres. Donc en 4 ans, il a aussi donné une autre manière de faire pays, de faire nation, et c'est très différent des Senghor, vous voyez. Et moi, je suis pas des oppositions. J'essaie de trouver un intérêt et une utilité et finalement un usage aujourd'hui historique chez l'un et chez l'autre. Je prends des choses chez l'un et chez l'autre.
Vous êtes un écrivain donc d'origine djiboutienne. Vous écrivez beaucoup sur la condition sociale, sur l'histoire, sur la colonisation. Est-ce qu'on est nécessairement un écrivain engagé? Est-ce que vous estimez que vous êtes un écrivain engagé? Vous avez écrit, par exemple, une fresque en 3 volumes sur votre pays, sur Djibouti. Le premier volume, ça s'appelait le pays sans ombre en 1994. Après, il y a eu Cahiers nomades. Vous parliez des nomades tout à l'heure et les Afar et Zissa, c'est aussi beaucoup ça, en 1996. Et puis Balbala, 2 ans plus tard. Donc tout ça, ça forme une fresque. Est-ce que vous estimez que vous êtes un écrivain engagé?
Vous connaissez la réponse. Hein. Je préfère être un écrivain engageant qu'un écrivain engagé. Mais engagé signifierait un écrivain qui, ou une écrivaine d'ailleurs, hein, qui prête attention à son entour. Donc ça ne me dérange pas. Ça ne signifie pas qu'on vulgarise un dogme ou qu'on essaie de transmettre un message univoque, etc.
Ouais.
Donc c'est, pour moi, un écrivain engagé et engageant, surtout avec des thématiques, une langue engageante, ça signifie un écrivain qui n'est pas indifférent à son environnement.
Ouais.
Donc oui, si ça signifie un écrivain qui s'intéresse à son ton, qui est de son temps et qui est de son époque.
C'est pour ça que vous êtes allé au Rwanda et que vous avez écrit un beau livre, d'ailleurs, un très beau livre qui s'appelle « Moisson de crâne ».
Alors, ces projets s'inscrivaient, à l'époque, on appelait ça d'ailleurs l'inventaire. Hein.
Ouais.
C'était Jospin qui était là.
Ouais.
Donc, avec beaucoup d'autres écrivains africains de l'époque, nous nous sommes rendus à Kigali, partager un temps de silence et de deuil avec les Rwandais.
Vous avez cette fabuleuse phrase dans ce livre, « Le malheur danse et sautille au bras de l'histoire ». C'est incroyable cette phrase-là.
Ouais, c'est... Je ne sais pas si c'est...
Ah si, c'est quand même... Alors en 2008, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Jean-Marie Le Clésio, qui obtient le prix Nobel de littérature. Qui lui-même connaît bien l'Afrique, pour y avoir beaucoup voyagé et pour avoir écrit sur l'Afrique aussi.
L'Africain, un roman magnifique.
L'Africain, roman magnifique. Et son prix Nobel, il vous le dédie. Et pourquoi?
D'abord,
vous êtes très fier de ça.
Je suis très fier et maintenant, je l'ai entendu, je l'ai lu, mais la première fois j'avais lu cet hommage-là. J'ai fait trois sauts Perrier en arrière. Hein, non, mais évidemment. Donc Jean-Marie Leclésio est d'abord un homme généreux. D'ailleurs, il cite beaucoup de gens dans son hommage dans son prix, le discours du prix Nobel, où il me cite, il cite d'autres, hein, il ne cite pas, je ne suis pas le seul à être cité, mais donc c'est un homme généreux, c'est un homme qui fait aussi, comme je disais tout à l'heure, qui fait famille. Il cite des écrivains avec lesquels il partage la langue française, par exemple, ce qu'on appelle les écrivains francophones. Ouais. Il cite, par exemple, des écrivains qu'on appelle indigènes ou autochtones parce qu'il a les soucis des fleuves, des rivières, donc ce qu'on appellera maintenant l'écosystème, il est très imprégné. Donc il cite plein de gens qu'il aime et de ces points de vue-là, c'est un grand frère, on va dire.
Vous le connaissez bien ?
Oui, oui, personnellement, je le connais très bien. Oui.
Et vous le connaissiez avant qu'il
Oui, bien sûr, on s'est rencontrés dans des salons et comme j'étais lecteur, c'est un homme qui voyage et qui fait voyager la France, Maurice, les lieux où il habitait ensemble. Il habitait au sud des États-Unis, chez les Indiens, on va presque dire, dans le Nouveau-Mexique. Donc c'est un homme qui balade de monde et qui fait rencontrer de monde. Mais on profite pour dire que après Jean-Marie, Gustave Leclésio. Nous avons eu encore Patrick Modiano et Annie Ernaux. Oui. En 15 ans, nous, de la langue française, avons eu 3 prix Nobel.
Oui.
Ce qui est exceptionnel.
Quel est votre écrivain africain préféré ?
Il y en a, j'allais dire, c'est comme ça dépend des âges. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai dit ? Parce qu'on aurait l'impression que j'aime plus, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais j'ai fréquenté des écrivains. Des gens comme Kateb Yassine en Algérie, comme Chinua Achebe, qui a fait une longue...
Très grand écrivain.
Donc, vous voyez, j'aime beaucoup, là encore, si il est mort aussi, mais moi, un des plus grands écrivains que j'aimerais citer, peut-être, c'est Aimé Césaire.
Aimé Césaire, qui lui est antillais.
Martiniquais,
précisément, qui était un ami intime de Léopold Sédar Senghor.
Et qui
a beaucoup écrit sur la négritude, qui est un des pères de la négritude.
Un grand poète de la langue française aussi.
Abdourahmane Ouaberi, merci beaucoup.
Merci.
Vous venez d'écouter un podcast de la chaîne LCP. Retrouvez nos autres programmes sur votre application Apple Podcast, Spotify ou Deezer et les replays de nos émissions sur le site lcp.fr et notre chaîne YouTube. À bientôt.